J'aimerais commencer par vous poser une question. Un moment, le son est bon? Oui? Pour tout? Oui? D'accord. Ok. J'aimerais commencer par vous poser une question. Pour évaluer une situation, est-ce que vous vous fiez à ce que vous voyez? Bien entendu, c'est ainsi qu'on procède très souvent. Mais dans certains cas, vous vous fiez plutôt à ce que vous savez, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, je me suis rendue chez des amis qui vivent dans un endroit magnifique sur la côte est-africaine. Un jour, ils ont proposé qu'on se lève très tôt pour aller voir le lever du soleil. Ils m'ont dit que le lever de soleil sont tout à fait grandioses dans cette partie du monde. Nous avons donc quitté la maison, très impatients, et nous nous sommes frayés un chemin à travers la forêt, puis nous sommes arrivés sur la plage. Mais une fois sur place, nous avons constaté que de gros nuages gris, qui ressemblaient à du coton, nous masquaient l'horizon. Nous savions, bien sûr, que le soleil était bien là, conformément aux lois de l'univers. Nous n'étions donc pas découragés. Au bout d'un moment, de petits éclats oranges ont transpercé les nuages et le ciel est devenu rose. Si nous étions fiés uniquement aux nuages, à ce que nous avions vu au premier abord, nous aurions rebroussé chemin. Mais nous n'avons pas tenu compte de ces nuages, car nous savions que le soleil était là, qu'il était en train de se lever, qu'une loi gouvernait son mouvement, sans que rien ne puisse l'interrompre ni l'entraver. Alors, le son est encore bien? Oui, vraiment? Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut toujours aussi certain de la présence de quelque chose qu'on ne voit pas? Je pense que oui, à condition de savoir que sa présence est due à un principe qui l'anime. Pouvons-nous être sûrs qu'un principe d'harmonie agit dans notre vie? Oui, à condition d'apprendre à connaître ce principe et sa manière d'opérer. La science chrétienne révèle que ce principe est Dieu. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut le connaître en comprenant sa nature. La compréhension de la nature de Dieu et l'importance de cette compréhension dans la vie quotidienne se trouve au cœur même de la science chrétienne et de la prière de guérison efficace qu'elle nous propose. Voulez-vous faire un bout de chemin avec moi aujourd'hui? Nous n'allons pas nous rendre sur la côte africaine, mais nous allons explorer quelque chose de plus précieux, la nature de Dieu. Nous ferons en chemin plusieurs découvertes spirituelles qui pourraient bel et bien changer votre vie. J'aimerais vous faire voir Dieu selon un point de vue que, depuis quelques ans, de plus de 150 ans, un grand nombre de personnes, y compris moi-même, trouvent riche de sens, rassurant et surtout pratique. Je vous propose une explication de la nature de Dieu et de son activité qui permet de guérir des maladies et de résoudre toutes sortes de problèmes. Ce concept de Dieu nous apporte aussi le sentiment rassurant qu'il existe une force fiable qui agit pour notre bien et le bien de tous. Tout cela est exposé dans ce livre Science et santé, avec la clé des Écritures, qu'on doit à Mary Baker Eddy, femme remarquable de la Nouvelle-Angleterre qui a découvert la science chrétienne. Les idées qu'il contient sont fondées sur la Bible et particulièrement sur les enseignements et l'exemple de Christ Jésus. Mais il n'est pas nécessaire de bien connaître la Bible pour en comprendre le sens. Il se peut que certains d'entre vous soient agnostiques ou athées. Mais je me dis que peut-être vous rejetez tout simplement le concept d'un Dieu semblable à un homme qui habiterait dans le ciel. Serait mystérieux, inconnaissable et d'humeur changeante. Eh bien, si c'est le cas, je ne suis pas surprise. Je ne pourrais pas croire en un tel Dieu. Mary Baker Eddy a elle aussi rejeté ce concept. Grâce à une étude approfondie de la Bible, elle a résolu le mystère associé de tout temps à Dieu. Elle a compris qu'on ne pouvait le définir en termes personnels, comme s'il était une sorte de super-héros, mais qu'on pouvait le présenter en termes d'idées. Dans Science et Santé, elle énonce 7 noms pour Dieu. Ces noms présentent la nature divine sous des angles différents et révèlent l'essence même de ce qu'est Dieu. J'aimerais tout d'abord vous lire un passage de Science et Santé. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. Voici donc notre première découverte. Dieu est principe divin. L'auteur poursuit, l'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Alors nous avons principe, esprit, vie, vérité, amour, ça fait 5, et les 2 autres noms pour Dieu qui tire aussi l'origine de la Bible, sont entendement, ce qui signifie l'intelligence suprême, et âme. Ces différents aspects de la nature divine agissent de concert et se renforcent mutuellement. Ils jouent un rôle fondamental dans notre vie, car ils sont à l'origine de notre nature et de notre caractère. Nous exprimons en effet les qualités de pensée qui découlent de ces noms. Il existe d'autres choses importantes à connaître au sujet de Dieu. Nous verrons pourquoi en poursuivant ensemble notre route. Dieu est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de limite. Dans tout ce qu'il est, Dieu est parfait, omniprésent, c'est-à-dire toujours présent partout. Il est omnipotent. En cultivant ce sens de la plénitude de Dieu, de nouvelles perspectives s'ouvrent à la pensée et à la vie. Que signifie Dieu en tant que principe divin? Tout principe est un fondement, une norme, une force motrice. Il est constant, invariable, et rien ne peut l'influencer. Pensez par exemple à mon superbe lever du soleil. Le principe opère comme une loi démontrable. Pensez aux mathématiques. Il est question de cause et d'effet, d'origine et de résultat. Sans en oublier les applications pratiques. Pensez par exemple au travail des ingénieurs. Le principe contient son idée ou point de départ, son expression ou la façon dont on le perçoit, son développement et son accomplissement. Il englobe tout, il est complet. Dieu, en tant que principe, n'est pas une abstraction. Il est le principe de cette vie qui nous a donné la vie. Le principe de la vérité, de l'amour, de l'entendement, qui agissent dans notre existence conformément à ce principe. Il inspire notre façon de penser et d'agir. Le principe apporte de l'ordre, de l'équilibre et de la stabilité dans notre existence, et il exclut toute notion du hasard ou de confusion. Voici la suite du passage que je vous ai lu il y a quelques minutes. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Alors, pourquoi le principe divin est-il amour? Dans la nature, toutes choses existent dans un système relationnel, n'est-ce pas? Je pense par exemple aux feuilles et à l'arbre, à la terre et au soleil. Nous-mêmes, nous existons en relation les uns avec les autres. Il existe des milliers de chansons qui célèbrent ce fait. Mais à un niveau bien plus profond, nous vivons en relation avec Dieu, avec l'amour divin même. Cet amour agissant dans notre vie nous permet d'être aimables, altruistes, doux, coopératifs et enclins à pardonner. Cette façon de penser et d'agir est essentielle pour mener une existence heureuse et assurer un équilibre dans la société. L'amour est à la base de la courtoisie, du respect et même de l'honnêteté. L'amour est au cœur de règles d'or, faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Et il nous incite à aimer nos ennemis, même si cela peut sembler parfois difficile. En effet, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais comme l'amour est le principe divin de notre être, cet amour divin nous donne l'amour dont nous avons besoin pour aimer. C'est ainsi que l'amour agit dans votre vie. Vous arrive-t-il d'avoir du mal à aimer ou tout simplement à vous entendre avec quelqu'un? Quand on y pense, la plupart des gens que nous côtoyons sont des personnes que nous n'avons pas choisies. Certains nous semblent charmants, mais d'autres beaucoup moins. D'une manière générale, on ne choisit ni les membres de sa famille, ni ses collègues de travail, ni les personnes qui partagent nos intérêts, par exemple les membres d'une chorale ou d'une équipe sportive. Même l'enfant tant désiré, qui est censé être pour nous source d'une grande joie, peut parfois être colérique et frustrant. Mais si nous savons que Dieu est notre principe divin, l'amour, toujours présent, toujours en train de s'exprimer, nous pouvons demander à l'amour de nous donner l'amour dont nous avons besoin pour aimer, ainsi que la patience, la compréhension et la sagesse nécessaires pour entretenir de bonnes relations avec les autres. Nous ne sommes donc jamais laissés à nous-mêmes. L'amour agit en nous. Est-ce que vous voyez que cette compréhension de Dieu nous permet de reconnaître comment il agit dans notre vie? Quand on comprend que Dieu est principe et amour, il n'est plus question de personne, mais de pouvoir, de présence et d'intelligence. En effet, en tant qu'entendement, Dieu donne de l'intelligence à l'expression de sa nature sous toutes ses facettes. L'entendement nous donne des idées qui mettent l'amour en pratique. Il nous dit comment être le plus utile à notre prochain à l'heure du besoin. Il nous donne l'intuition nécessaire pour savoir quand parler et quoi dire et quand il est préférable de nous taire. En fait, l'entendement est à l'origine de l'inspiration qui apporte la guérison en toutes circonstances. L'entendement renferme toutes les idées intelligentes et productives dont nous pouvons avoir besoin, quelle que soit notre activité. Il apporte la motivation et la compréhension nécessaires aux tout petits pour apprendre à marcher et à parler, et aux étudiants pour réussir les examens. Ces examens qui n'en finissent jamais, n'est-ce pas? Y a-t-il des étudiants ou des élèves dans la salle? Oui, bon. Et aussi des parents ou des grands-parents d'étudiants? Oui, beaucoup. D'accord. Alors, vous souvenez-vous que l'une des caractéristiques de Dieu, c'est d'être toujours présent partout? Alors, où que vous soyez, à la bibliothèque ou dans une salle d'examen, l'entendement et tout ce qu'il renferme est également présent. Tout ce que vous avez besoin de savoir est donc présent et vous êtes accessible. Si vous reconnaissez cette vérité, vous deviendrez réceptif et vous constaterez que les idées commencent à fuser. En réalité, nous passons tous des examens, n'est-ce pas? Car un examen, c'est en somme tout ce que nous voulons réussir. C'est l'occasion d'être réceptif à la présence de l'entendement et de laisser ces idées d'harmonie et de progrès affluer dans notre conscience. Et que dire des autres? Des 7 membres du Conseil fédéral, par exemple. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Peut-être? Non? Quel dommage. Mais où qu'ils soient, l'entendement est avec eux pour leur apporter la hauteur de vue et la matrice du détail nécessaire pour répondre à l'urgence de l'heure. Nous soutenons un bon gouvernement en reconnaissant ce fait, quel que soit le parti au pouvoir, et que nous ayons voté pour lui ou non. Dieu agit dans la vie de chacun en tant qu'entendement, l'intelligence suprême. Au tout début de la Bible, dans le premier chapitre de la Genèse, on découvre le statut spirituel de l'homme. Il y est écrit que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas créé matériellement, car Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de matière pour s'exprimer. Il s'exprime par des idées, par la pensée. L'homme est ici un terme générique qui désigne l'ensemble des hommes, des femmes et des enfants. Ainsi, dans cette salle, nous sommes tous faits à la ressemblance de l'amour. Nous avons déjà découvert que l'amour divin nous donne l'amour dont nous avons besoin pour aimer, de même que l'entendement divin nous donne les idées intelligentes que nous pensons. Mais cela n'est pas donné comme une personne offre un cadeau à une autre, ou comme je vous tends ce livre, comme ça. Pourquoi? Parce que chacun de nous vit en tant qu'expression même du principe divin. C'est un peu comme si Dieu regardait dans un miroir et vous y voyez. Mary Baker Eddy écrit dans Science et Santé, « L'homme est l'expression de l'être de Dieu. » Alors l'amour divin s'exprime directement par votre être en tant que votre vie. L'entendement divin s'exprime en tant que votre vie. Tout ce que Dieu est fait de vous ce que vous êtes. Vous ressemblez donc à Dieu. Avez-vous déjà pensé à vous-même de cette façon? Réfléchissez-y pendant quelques secondes. Tout ce que Dieu est fait de vous ce que vous êtes. En allant plus loin, nous découvrons qu'en tant que ressemblance de Dieu, nous ne pouvons exprimer que la nature de Dieu. Seul ce que Dieu est fait de vous ce que vous êtes. La même idée est formulée dans Science et Santé. Il est impossible que Dieu ait jamais communiqué un élément de mal, et l'homme ne possède rien qui ne lui vienne de Dieu. Ceci est le raisonnement spirituel qui fournit un principe sur lequel s'appuyer, une base sur laquelle prier efficacement. Ce raisonnement, c'est vraiment prier. Cette prière part de Dieu et de sa nature parfaite, puis met notre vie en rapport avec cette vérité. Elle suit le modèle donné par Jésus dans la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, c'est le début de la prière du Seigneur. Elle part bien de Dieu et de notre relation à lui. J'aimerais vous montrer par un bref exemple comment la prière qui part d'une base correcte amène à une conclusion correcte. J'avais un chat, le Big Boss, qui est tombé très malade. Comme j'avais déjà obtenu bien des guérisons par la prière, j'ai tout naturellement prié pour lui pendant plusieurs jours, en reconnaissant sa relation à Dieu en tant que partie intégrante de la création parfaite de Dieu. Mais il allait de mal en pis. Cela ne présageait rien de bon. J'ai réfléchi longuement à ce que je devais faire vu la situation, et j'ai aussi passé en revue la façon dont j'avais prié. Quelque chose me tracassait et venait troubler mes prières, mais je ne savais pas ce que c'était. Finalement, je me suis rendu compte que bien que j'aimais ce chat, je n'étais pas certain que Dieu en fasse autant. À sa manière, ce chat est un petit démon qui prenait plaisir à terroriser nos autres chats avec un art consommé. Il est guetté dans un coin, puis il est pourchassé. Nos autres chats se réfugiaient dans un arbre, et lui, il s'installait au pied de l'arbre avec un air de défi. Mais eux ne bougeaient plus jusqu'à ce que le Big Boss finisse par se lasser et s'en aller. Alors, j'ai compris quelle était mon erreur. Je pensais à lui de deux points de vue différents. L'un basé sur Dieu, l'autre non. Ce deuxième point de vue voyait des défauts. Je me suis donc remise à prier, de façon cohérente à partir du fait spirituel que Dieu est amour et que l'homme est l'expression de l'être de Dieu. Étant donné que Dieu est le principe de toute chose, j'étais sûr que cette affirmation incluait mon chat. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. J'ai alors compris que, puisque ce chat était l'expression de l'amour, il était forcément aimant. Son identité en tant qu'image de l'amour incluait nécessairement ses caractéristiques. J'ai donc pu affirmer sa perfection sans la moindre réserve, en toute connaissance de cause, avec force. Son état s'est aussitôt amélioré et il a rapidement été en bonne santé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait cessé de terroriser les autres chats. Ma famille l'a remarqué aussi. Bien sûr, ce n'est là qu'un petit incident domestique, mais j'en parle parce qu'il démontre un principe universel. Et puis, j'ai beaucoup appris de cette guérison. Ça me rappelle que je dois prier en partant de Dieu et de ce qu'il est, et m'en tenir à ce point de vue. À propos, est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas prié pour traiter l'état physique du chat, mais pour voir en lui une idée de Dieu reflétant la nature de l'amour? La prière est exaucée quand on cherche sincèrement à comprendre la nature divine et notre relation à lui. C'est ainsi que se produit la guérison. Mais pas seulement la guérison du corps. Le chat s'est rétabli physiquement, mais son comportement s'est aussi nettement amélioré. La prière n'a rien de mystérieux. Il s'agit juste de maintenir la pensée en harmonie avec le principe divin, avec le pouvoir de la vérité et de l'amour. Il est clair qu'il nous faut prier au sujet du terrorisme en général. Et nous pouvons le faire en nous appuyant sur la nature de Dieu, qui est l'amour divin pur. L'origine de la nature et du caractère véritable de tout homme, de toute femme et de tout enfant sur cette planète. Qu'importe ce que nous voyons aux nouvelles ou dans notre vie, la fait spirituelle que nous connaissons est le suivant. L'homme étant l'expression de l'être de l'amour, il aime de façon universelle. Ayant l'entendement, c'est-à-dire l'intelligence qui est amour, l'homme est inspiré par l'amour, non par la colère ni la haine. Et son but est de faire du bien à tout le monde et de ne nuire à personne. Face à certaines images de violence spectaculaire, comment peut-on dire que l'homme a cet entendement qui est l'amour? Comment le savons-nous? Grâce au sens spirituel. C'est grâce au sens spirituel que nous pouvons comprendre la nature de Dieu et l'identité véritable de l'homme à sa ressemblance. C'est parce que nous sommes l'expression de l'Esprit, qui est un autre nom pour Dieu, que nous possédons le sens spirituel et la compréhension spirituelle, nous permettant de faire le lien entre la nature divine et la nature humaine, et de maintenir le point de vue spirituel qui apporte la guérison. C'est l'Esprit qui nous communique la certitude de l'omniprésence de Dieu, de son omnipotence et de son infinité. C'est l'Esprit qui nous assure que l'amour et ses qualités sont partout, y compris là où nous sommes, et qu'ils ne sont jamais limités par le temps, le lieu, ni qui que ce soit. L'Esprit agit dans notre existence de concert avec la vie divine, pour nous donner la vie éternelle et infinie. La découverte que la vie est spirituelle, infinie et éternelle nous ouvre de nouveaux horizons et exerce une énorme influence sur la façon dont nous abordons les événements qui surviennent dans notre existence. La vie se déroule dans le présent. Elle ne se retourne pas sur le passé avec nostalgie ou regret. Et nous ne devrions pas le faire non plus. La vie apporte de la vitalité à toutes les qualités de l'amour, de la vérité et de l'entendement qui nous sont nécessaires pour mener une existence libre et épanouie à chaque instant. La vie ne peut jamais donner vie à ce qui est dissemblable à sa nature, qu'il s'agisse de maladie, de dépression ou de déclin. Regardez comment la vie et l'entendement agissent ensemble. Parce que nous sommes la pleine et parfaite expression de la vie, nous exprimons l'intelligence de la vie. Nous pensons comme la vie pense. Nous pensons avec la vie. Alors laissons la vie occuper nos pensées. Nous n'aurons ainsi aucune raison d'être envahis par des pensées morbides qui peuvent se manifester sous forme de chagrin, de maladies considérées comme incurables, de crainte de la mort, voire du désir de mourir. Je sais que cela peut sembler parfois exagéré, mais le raisonnement spirituel qui part de la vie en tant que principe de vie, en tant que pouvoir, nous fait comprendre le caractère inéluctable de la vie, au point de nous libérer de toutes les souffrances associées de la mort. Ne pensez-vous pas que la vie est bien plus que ce que nous en voyons à la surface? Comme la vie est spirituelle et éternelle, tous les aspects du caractère de Dieu constituent l'expression éternelle de notre existence individuelle. Chacun de nous continue de vivre selon sa compréhension en tant qu'expression de l'harmonie, même après ce que l'on appelle la mort. Les êtres chers qui nous ont quittés peuvent nous manquer, mais nous n'avons pas besoin d'être chagrinés à leur sujet, ni d'être affligés nous-mêmes. Si nous regardons en arrière, nous devons nous rappeler avec gratitude des bons moments que nous avons partagés avec eux. Mais regardons aussi vers l'avenir en étant certains des progrès qui continuent de marquer leur vie, aussi bien que le nôtre. Tout a son origine et sa continuité en Dieu, le principe, la vie et l'amour divin. Poursuivons notre exploration. Il y a quelques années, une chaîne de télévision anglaise a diffusé une série intitulée « En attendant Dieu ». On y racontait la vie des pensionnaires d'une maison de retraite. L'histoire était réaliste, à la fois émouvante et très drôle. mais elle ne plaidait pas vraiment en faveur de la vie. Pour être tout à fait clair, nous n'attendons pas la mort ou la fin de notre existence. Nous sommes accomplissement, l'accomplissement de la vie. On dit que la seule chose dont on est certain dans la vie, c'est de mourir. Mais en réalité, la seule chose dont on est certain dans la vie, c'est de vivre. Dieu, en tant qu'âme, renferme chaque qualité de pensée qui constitue notre identité, maintenant même et éternellement. La vie agit pour le bien. Elle agit en faveur de la vie dans notre existence. Il est important de comprendre que tous ces aspects de la nature divine que nous avons abordés sont sans cesse en interaction. Ils concourent ensemble à notre bien. Saint Paul a été le premier à le faire remarquer dans une lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Rome. La vie était très dure pour eux à cette époque. C'est ainsi que Paul a les encouragés à considérer toute chose d'un point de vue spirituel. Il écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque aspect de la nature de Dieu, chaque attribut, chaque qualité du principe de l'amour, de l'entendement, agit de concert avec chaque qualité de la vie, de la vérité, de l'âme et de l'esprit, afin de produire, de soutenir et de maintenir l'harmonie. C'est parce que Dieu est infini qu'il n'existe rien en dehors de l'activité perpétuelle du bien, ni rien qui en soit exclu. Tout est contenu dans cette activité. C'est là le principe de la divinité. Il embrasse l'humanité entière. Dieu agit pour le bien dans votre vie. Dieu agit pour le bien dans notre vie. C'est en fait le Christ. La science chrétienne met en lumière le fait que le Christ est plus que l'homme Jésus. Le Christ est la vérité au sujet de Dieu et de la relation parfaite de l'homme avec Dieu que Jésus enseigna, illustra par sa vie et démontra en guérissant tant de personnes. C'est parce que le Christ n'est pas une personne, mais représente le principe éternel qu'il agit dans notre vie, maintenant même. Le caractère de Christ Jésus est l'exemple suprême de la nature divine. Son œuvre de guérison est due au fait qu'il maintenait sans cesse le point de vue spirituel, remplaçant ce qu'il voyait par ce qu'il savait. Il a fait cette déclaration intemporelle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus a promis que, lorsqu'il aurait quitté ce monde, un consolateur viendrait, je cite, « afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. » L'esprit de vérité. En tant que fervent disciple de Jésus, Mary Baker Eddy a beaucoup réfléchi à ces paroles et elle a compris que ce consolateur ne pourrait jamais être une personne, mais qu'il demeurait toujours avec nous en tant qu'esprit de vérité, car il était la loi de Dieu. En étudiant attentivement l'œuvre de guérison de Jésus, elle a découvert cette loi qu'elle a expliquée et nommée Christian Science, autrement dit la science chrétienne. J'aimerais vous relater brièvement comment elle est parvenue à cette compréhension de Dieu et en quoi cela a transformé la vie et sa capacité à aider l'humanité. Très tôt, elle avait développé de grandes qualités de pensée et ne prenait rien pour argent comptant. Son père avait l'habitude de lire longuement la Bible chaque soir en famille, ce qui était chose commune à l'époque où elle était née, au XIXe siècle. Mary aimait beaucoup écouter, mais elle refusait d'accepter la croyance traditionnelle de son père, croyance selon laquelle Dieu condamnait certains à la damnation perpétuelle ou permettait que des calamités s'abattent sur eux. C'est pourquoi elle a commencé dès l'enfance à étudier la Bible avec zèle et ferveur pour épuiser une connaissance pratique de Dieu, capable de répondre à son désir ardent de vaincre la souffrance et l'injustice qu'elle voyait autour d'elle. Elle a été elle-même malade durant des années et a connu des drames personnels. En quête d'un soulagement, elle a essayé la plupart des traitements connus à son époque. À 40 ans, elle est tombée sur un trottoir gelé. Ses blessures étaient si graves que ses amis craignaient pour sa vie. Après 3 jours passés dans un état plus ou moins comateux, elle a eu la force de demander qu'on lui apporte la Bible. Elle l'a ouverte à la page où l'on relatait une guérison de Jésus. Tandis qu'elle lisait, elle a eu la conviction que sa vie était en Dieu, qu'elle était entièrement spirituelle. Elle s'est sentie soudain tout à fait bien. Elle était guérie non seulement des conséquences de l'accident, mais également d'une mauvaise santé chronique. À ses yeux, cette guérison n'était pas due au hasard ni à la chance. Elle y a vu avec certitude l'effet d'une loi divine. Par le passé, elle lui était déjà arrivée de guérir des gens grâce à sa foi en Dieu. Mais il n'était désormais plus question pour elle de se contenter de guérisons occasionnelles. Dans un contexte particulièrement difficile, ne disposant d'aucun logement à elle, rejetée par sa famille et ses amis qui tournaient sa quête en ridicule, elle a consacré les 3 années suivantes à étudier la Bible afin d'y découvrir une règle positive expliquant les guérisons de Jésus. Elle y est parvenue car elle a découvert qu'elle pouvait non seulement guérir d'autres personnes de façon systématique, mais également leur apprendre à accomplir des guérisons à leur tour. Elle a consacré encore plusieurs années à écrire la première édition de Science et Santé, sans jamais cesser de prier pendant qu'elle rédigeait. Guettant l'inspiration, attentive à la compréhension qui lui était révélée par l'entendement divin, elle a continué de retravailler ce livre jusqu'à ce qu'elle en soit pleinement satisfaite, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'y avoir présenté l'exposé complet de la science chrétienne. C'est ce livre que nous étudions aujourd'hui. Il est intéressant de noter ce qui avait changé dans ses pensées. Elle avait toujours aimé et honoré Dieu, mais à présent, sa compréhension du principe divin de l'harmonie universelle lui permettait d'accomplir régulièrement toutes sortes de guérisons. Elle avait développé une foi on ne peut plus pratique. En fait, elle était passée de la simple foi à la compréhension. elle avait découvert comment Dieu agit dans l'existence individuelle. Sa découverte reste parmi celles dont la portée transforme l'existence et peut même changer le monde. Quelques années plus tard, l'un de ses élèves, Alfred Fallot, a relaté une conversation au cours de laquelle Mary Baker Eddy expliquait comment s'était produite sa guérison initiale. Voici ce qu'il écrit. À l'époque, le procédé par lequel elle était instantanément guérie n'était pas clair à ses yeux. Mais elle savait que sa pensée s'était détachée de tout pour ne contempler que Dieu, son omnipotence et sa présence constante, son amour et son pouvoir infini. Elle comprit finalement que sa conscience aiguë de la présence divine avait détruit la peur et la conscience de la maladie de la même manière que la lumière dissipe les ténèbres. Forte de son expérience, elle a écrit dans Science et Santé : détournez votre attention du corps pour contempler la vérité et l'amour, le principe de tout bonheur, de toute harmonie et de toute immortalité. Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées. Elle décrit là la méthode de guérison fondamentale en science chrétienne, si étonnante qu'elle puisse paraître à première vue. Il s'agit de détourner son attention du corps ou de toute situation discordante, qu'il s'agisse de chômage, de dépression, de perte de foyer, et accorder toute son attention à la vérité et à l'amour. Puis, il faut maintenir ses pensées à ce niveau pour être pleinement conscient de la présence, du pouvoir et de l'amour divin. Cela ne signifie pas pour autant que la science chrétienne néglige le corps, pas du tout. C'est avec une sollicitude et une compassion profonde qu'elle répond aux besoins des malades. Elle a pour but de guérir, mais par des moyens spirituels et non par physique. Je vais vous expliquer comment. Lorsqu'un problème se présente, et surtout s'il s'agit d'un problème de santé, il semble logique d'en chercher la cause. Or, la bonne question à se poser, celle qui apporte la guérison, doit partir de Dieu. De quoi la vérité est-elle la cause dans le cas présent? De quoi l'amour est-il la cause? Ce point de vue radicalement différent est basé sur le raisonnement spirituel. Vous vous souvenez que nous avons abordé ce point à propos de la guérison de mon chat et quand nous avons exploré la nature fondamentale de la vie? Priez, c'est partir de ce que l'on sait et non de ce que l'on voit. Prier, c'est partir de ce que l'on sait et non de ce que l'on voit. C'est comme la loi qui gouverne le lever du soleil, même quand la vue est bouchée. Grâce au sens spirituel, nous savons que Dieu est infini, omnipotent, toute cause et tout effet. Par conséquent, Dieu, l'amour, la vie, la vérité, est cause de sa pleine et parfaite expression à chaque instant. La vie est cause du fait que sa vitalité, sa force et sa liberté s'expriment par notre vie, maintenant même. Selon la biologie et la médecine, c'est notre corps, ses mécanismes complexes de cellules, de tissus, d'organes, de muscles, etc., qui nous identifient. Tous ces éléments contribuent ensemble à nous assurer la santé, mais parfois aussi, semble-t-il, à favoriser la maladie. Or, cette façon de se considérer soi-même repose uniquement sur un point de vue limité, selon lequel tout n'est que matière. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, ce n'est pas le corps que nous transportons partout avec nous qui fait de nous ce que nous sommes, mais les qualités de l'âme qui sont nôtres, les caractéristiques qui émanent de Dieu. Nous pourrions croire que le corps est autonome, mais en réalité, son action correspond à nos pensées. Quand vous êtes heureux, les coins de votre bouche remontent pour former ce qu'on appelle un sourire. La pensée est fondamentale. Si je relève les coins de la bouche avec les doigts, comme ceci, ce n'est pas un sourire. Il n'y a pas de pensée, c'est juste un mécanisme. Et quand vous êtes triste, les larmes vous viennent aux yeux. Si vous êtes gêné, vos joues rougissent. Et si vous avez peur, toutes sortes de phénomènes peuvent se produire. Il est communément admis que toutes ces réactions, c'est les effets de la pensée sur le corps. Mary Baker Eddy est allée plus loin, car pendant des années, elle a, je cite, essayé de rapporter tous les effets physiques à une cause mentale. Et après sa guérison dont je vous ai parlé, elle a, toujours selon ses propres mots, acquis la certitude scientifique que toute causation est entendement et tout effet un phénomène mental. En l'occurrence, elle fait allusion à l'entendement divin. Elle s'exprime à partir de points de vue entièrement spirituels auxquels elle est parvenue, à savoir que la vie par essence ne se trouvait pas dans la matière, mais dans l'entendement divin, dans l'esprit. En étudiant la Bible, elle a remarqué que chaque fois que Jésus parlait du corps, c'était pour détourner la pensée du physique au profit d'un concept mental de l'identité. Mais il guérissait bel et bien le corps, comme il guérissait les problèmes mentaux et réformer les pécheurs, piégés par un mode de vie qui n'engendre pas un bonheur durable. Il a guéri la maladie et le péché par la même méthode, un processus mental spirituel et non matériel. Cette méthode était fondée sur l'entendement divin et non l'esprit ou entendement humain. Jésus comprenait si bien sa relation à Dieu et celle de tous les hommes à Dieu qu'il lui était tout à fait naturel de regarder vers l'âme et d'en sonder la nature pour y voir la vraie identité de l'homme. Bien, nous avons découvert que la pensée gouverne le corps. Alors, pour que notre corps soit sain, il faut donc que nos pensées soient saines. Pour constater que l'entendement divin gouverne effectivement nos pensées et notre corps, il faut accepter sans réserve le fait que l'entendement divin est le seul entendement, qu'il est toujours présent, qu'il s'exprime en tant que notre entendement, et nous donne des pensées ayant les qualités de la vie, de la vérité et de l'amour. Nous devons alors vivre en harmonie avec ces pensées et rejeter toute pensée opposée, particulièrement celles qui sont remplies de crainte. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous croyez être prédisposé à une maladie particulière parce qu'un membre de sa famille en a souffert? Dans ce cas, vous permettez à la crainte et à la croyance générale à la vie matérielle d'agir dans votre vie. Faites l'inverse. Détournez-vous de la notion d'hérédité et acceptez le fait spirituel que le principe, l'entendement, l'âme, l'esprit, la vie, la vérité et l'amour agissent ensemble pour le bien. Et comme ils sont infinis et éternels, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Votre héritage est le bien. J'ai prié de cette façon pour un homme qui avait deux vilaines grosseurs à la tête. Il m'avait appelé pour me demander de l'aide. Il n'avait pas recherché un diagnostic médical, mais certains membres de sa famille craignaient qu'il s'agisse de tumeurs cancéreuses, ce qui lui avait fait peur car son frère était mort d'un cancer. Sa famille le poussait à aller voir un médecin, mais parce qu'il aimait et comprenait la nature de Dieu, il a préféré se remettre uniquement à la prière pour guérir. Vous vous souvenez qu'au tout début, j'ai mentionné la première phrase de la prière du Seigneur, « Notre Père qui es aux cieux ». Si on s'est senti, développe davantage cette idée de la manière suivante. Notre Père, Mère, Dieu, tout harmonieux. Lors de la conversation que j'ai eue avec cet homme, nous avons parlé de ce passage et nous avons reconnu sa relation fondamentale à Dieu. Cela est vrai pour nous tous. L'amour est notre origine. Et je ne parle pas de l'amour en tant que sentiment romantique, mais de l'amour divin qui agit de concert avec l'intelligence de l'entendement, avec l'équilibre du principe, avec la continuité de la vie. Cette origine divine supplante la filiation humaine et exclut toute hérédité physique. Mon ami a peu à peu reconnu son héritage spirituel et s'est identifié au fait que Dieu agit pour le bien dans sa vie. Alors ses craintes ont diminué jusqu'à disparaître. Et les grosses avec elles. Il était guéri. Voilà ce qu'est la guérison par la prière. La pensée répond à la prière, au raisonnement spirituel, et le corps correspond à la pensée. On pourrait se demander, si Dieu agit pour le bien de notre vie, pourquoi dans ce cas tombons-nous malades? Pourquoi y a-t-il de mal dans le monde? Je suis sûre que la plupart des gens se posent cette question. Nous y avons déjà apporté un début de réponse en reconnaissant l'influence des pensées sur notre vécu. Science et santé répondent clairement à cette question ainsi. C'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. C'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. La vraie compréhension de Dieu, c'est bien là le cœur de notre sujet aujourd'hui. Si nous ne connaissons pas notre principe divin et sa bonté, sa présence et son pouvoir, alors nos pensées sont un mélange de bien et de moins bien, voire de mal, et nous en voyons la manifestation dans notre existence. La crainte, l'égoïsme, la rancœur, le chagrin, la cupidité, la haine, ce qui inclut la tendance à critiquer, tous ces états d'esprit ont un effet négatif sur la santé, sur les relations sociales, la sphère politique et même l'environnement. Mais il est toujours possible de contester le mal chaque fois qu'il apparaît et quelle que soit sa forme. Comment? En comprenant qu'il n'a ni origine, ni expression, ni soutien du principe divin, et aussi en explorant plus en profondeur la vérité et l'amour pour y trouver les faits spirituels qui détruisent le mal. Nous découvrons alors que grâce à la nature illimitée de l'amour divin, toujours présent en tout lieu, le principe, l'entendement, l'âme, l'esprit, la vie, la vérité et bien sûr l'amour même concourent ensemble au bien, et au bien seul. Le mal est exclu par l'omnipotence du bien. Le fait de connaître Dieu et de savoir que tous les aspects de la nature divine concourent au bien dans notre vie, nous donne une base sur laquelle résoudre tous nos problèmes à mesure qu'ils se posent. Et c'est ainsi que nous contribuons à la disparition tant dans notre existence que dans le monde en général. Nous ne pouvons pas inciter Dieu à agir dans notre vie, et nous n'avons pas besoin de le faire. De même que le soleil ne cesse de briller, le principe de la vie, de la santé et de l'harmonie est toujours à l'œuvre. Ici, maintenant même, où que nous soyons, à chaque instant. Notre rôle consiste à ouvrir notre cœur à ce fait, à connaître la vérité, à l'accepter et à vivre en harmonie avec elle. Et nous pouvons le faire parce que Dieu agit en nous. C'est dans la nature de l'amour divin de se faire connaître et ressentir afin de dissoudre les nuages de la crainte et du doute. C'est dans la nature de l'entendement divin, l'intelligence suprême, de nous donner les pensées nécessaires pour que nous puissions faire face à toute situation et nous conformer doucement à cette norme qui favorise la paix dans tous les domaines de l'existence. Nous voici arrivés à la fin de notre promenade ensemble. Je vous remercie de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez découvert de nouvelles façons de voir Dieu et de vous voir vous-même. Et j'espère que vos découvertes deviendront de plus en plus belles et de plus en plus importantes à vos yeux. Si vous souhaitez les approfondir par vous-même, vous pouvez par exemple reprendre un des noms pour Dieu et les rechercher dans la Bible ou dans Science et Santé. Ou tout simplement chercher la manifestation de l'entendement divin, de l'amour divin ou de la vie divine dans votre quotidien. En explorant ces idées, laissez votre compréhension se développer naturellement. N'oubliez jamais que Dieu agit en vous. Et si vous deviez vous souvenir seulement d'une chose d'aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Dieu agit pour le bien dans votre vie parce que Dieu est votre principe divin, l'amour.